Vous écoutez Radio France Internationale, il est 19h à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir.
Bienvenue dans RFI Soir, votre édition d'information de la soirée. Dans le débat, on parlera des législatives en France. C'est dans 3 jours. Y a-t-il une trumpisation du débat politique, c'est-à-dire une brutalisation, une outrance, voire des contre-vérités pour influencer l'électorat? Ensuite, à 20h10, le décryptage, on parlera des enjeux de la présidentielle en Iran. C'est demain. Les législatives en France sont aussi au menu d'Accent d'Europe à 21h10, mais vu d'Allemagne et de Pologne. Et pour terminer ces 3 heures d'info, le grand reportage sur la petite sœur d'Ariane 5, partie à la retraite l'an dernier. La fusée Ariane 6 doit s'envoler cet été. Un lancement crucial pour les Européens, bousculé par la concurrence américaine et chinoise. Mais d'abord, c'est le grand journal du soir. Bonsoir Stéphane Genest.
Bonsoir Manon Cazeneuve, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, comme un air de déjà-vu, Joe Biden et Donald Trump face à face.
Après des mois d'invectives, l'heure de la confrontation a sonné. Ils se retrouvent ce jeudi soir pour le premier débat de la présidentielle américaine. Le calme est revenu en Bolivie au lendemain d'un coup d'État avorté. Au sommaire également, la colère des dirigeants italiens et hongrois sur la répartition des postes dans l'Union européenne. J-3 avant le premier tour des élections législatives en France. Et la Malaisie qui démantèle un réseau international d'importation de déchets, un trafic, vous l'entendrez, qui est très lucratif.
Et puis dans un quart d'heure, toute l'actualité sportive dans RFI Soir avec le basket, la draft de la NBA qui fait la part belle aux Français. La campagne pour l'élection présidentielle commence donc officiellement ce soir aux États-Unis.
Et ce qui marque le top départ de cette campagne, c'est le débat entre Joe Biden et Donald Trump, un moment très important dans la vie politique américaine. C'est le dossier du journal avec l'envoyé spécial permanent de RFI à Washington, Guillaume Nodin. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous.
Élection qui est pourtant prévue pour le 5 novembre prochain. Alors Guillaume, pourquoi un débat maintenant à un peu plus de 4 mois du scrutin ?
Eh bien, en fait, cela faisait des mois depuis le Super Tuesday, en fait, le jour où une bonne douzaine, quinzaine d'États américains tenaient leur primaire, que Donald Trump défiait Joe Biden. Il le défiait en lui promettant de l'affronter en débat où il voulait et quand il voulait. Et pour rester dans la même veine, make my day, pas littéralement, fais-moi plaisir, mon pote, avait fini par répondre Joe Biden façon inspecteur Harry. Et s'il a accepté le défi, c'est qu'il pense que le moment lui est favorable avec la fin du procès au pénal de Donald Trump à New York qui a été reconnu coupable de 34 chefs d'inculpation.
Alors, inhabituel, ça on l'a compris Guillaume Nodin, mais ce qu'il y a aussi d'inhabituel, ce sont les conditions de ce débat.
Oui, d'habitude, il y a un comité officiel national qui s'occupe d'organiser ces débats, mais il ne semblait satisfaire aucun des deux camps. C'est donc la chaîne de télévision CNN qui ramasse la mise. Cela va se passer à Atlanta, son siège historique qui ne l'est plus, en Géorgie, qui est l'un des 6 ou 7 États clés qui peuvent faire basculer l'élection. La chaîne a fixé des règles strictes. D'abord, sur les participants, il fallait avoir au moins 4 sondages nationaux à au moins 15% ou apparaître sur les bulletins d'un certain nombre d'États. Cela exclut de fait les petits candidats indépendants, dont Robert Fitzgerald Kennedy Jr., RFK Jr., comme on l'appelle, qui ne cache pas sa colère et sa frustration.
Et puis il y a aussi les règles du débat lui-même.
Alors oui, vous vous souvenez peut-être qu'en 2020, les deux débats, le premier surtout, avait tourné à la foire d'empoigne avec Donald Trump qui ne cessait d'interrompre et d'invectiver Joe Biden, lequel avait fini par s'agacer et intimer à son adversaire de la fermer, le fameux « Will you shut up, man ?». Personne n'avait envie de revivre ça, donc tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Il n'y aura pas de public pour encourager ou soutenir l'un des deux candidats. Donald Trump, d'habitude, il aime bien s'appuyer sur son public. Et puis le micro ne sera ouvert que pour celui qui a la parole. Cela n'empêchera pas les interactions parce que les deux pupitres seront à 2,50 m l'un de l'autre. C'est censé durer 1h30 et il y aura 2 coupures publicitaires pendant lesquelles les deux hommes ne pourront pas interagir avec leurs conseillers. Ils n'auront pas le droit d'arriver avec des fiches ou des notes. Ils disposeront seulement chacun de papier, d'un crayon et d'une bouteille d'eau. Et pour continuer dans la métaphore du duel, ce sera donc un affrontement quasiment à main nue.
Alors les enjeux sont lourds pour Joe Biden et pour Donald Trump. Leur âge notamment est un enjeu. Je me suis permis un bref calcul. Guillaume Nodin, à eux deux, ils ont 159 ans.
Et à nous deux, on a moins de 100 ans, Stéphane. Et ils ont donc effectivement en commun un âge avancé. Et même si la perception la plus communément admise, c'est qu'à plus de 80 ans, Joe Biden a plus à prouver qu'il peut assumer un second mandat. La question de l'âge et de leur capacité respective est valable donc pour les deux. Pour les deux, un moment d'absence ou de confusion pourrait avoir de lourdes conséquences. Pour le reste, chacun cherchera à imposer son récit, celui du sérieux, de la maîtrise des dossiers et de la dignité pour Joe Biden, qui cherche depuis des semaines à souligner le contraste qu'il oppose à Donald Trump. Pour l'ancien président, il s'agira d'insister sur l'incompétence supposée du sortant et sur la catastrophe de ses résultats en termes d'immigration et d'inflation. Le but pour chacun, ce sera de convaincre les électeurs qui ne sont peut-être pas encore totalement polarisés, il en reste, et surtout de ne pas faire de bêtises, parce que ce débat va fixer une image pour le reste de la campagne, plus de 4 mois encore, et s'il n'est pas évident qu'il puisse faire gagner l'élection, il peut sans doute la faire perdre.
Le dossier du journal avec Guillaume Nodin, envoyé spécial permanent de RFI à Washington en direct avec nous. Merci beaucoup Guillaume.
Direction la Bolivie, Stéphane, où c'est le jour d'après la tentative de coup d'État.
C'est la capitale, La Paz, qui a été le lieu de cette tentative de coup d'État. Hier après-midi, des militaires accompagnés de chars ont occupé la place Murillo, où se trouve le Parlement et le siège du gouvernement. Au bout de quelques heures, ils sont finalement rentrés dans leurs unités. Nils Sabin, vous êtes notre correspondant à La Paz. Alors, quelle est la situation à l'heure où l'on se parle?
Eh bien, la situation est revenue à la normale dès hier soir. On peut circuler sans aucun souci sur la place Murillo qu'occupaient les militaires hier après-midi. Et pour quelqu'un qui arriverait aujourd'hui à La Paz, il serait presque impossible de deviner qu'il y a une tentative de coup d'État il y a moins de 24 heures. Hier soir, le meneur des militaires rebelles, Juan José Zuniga, a été rapidement arrêté, tout comme un vice-amiral, lui aussi accusé d'avoir organisé la tentative de coup d'État. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'une dizaine de militaires avaient été arrêtés, que l'on compte 12 blessés par balle et que les accusés risquent jusqu'à 30 ans de prison. Aujourd'hui, tout le monde essaye de comprendre quelles ont été les motivations des militaires. Les déclarations de Juan José Zuniga lors de son arrestation ont également jeté le doute sur les événements. Celui-ci a déclaré que c'était le président Luis Arce lui-même qui lui avait demandé d'organiser la prise de la place Murillo par les militaires. Selon lui, le président aurait fait cette demande aux militaires pour tenter de redorer son image. Une accusation qui a été niée par le ministre de l'Intérieur. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Et cette tentative de coup d'État a été condamnée par de nombreux pays, notamment la Russie, tout comme plusieurs pays européens, dont la France, qui apporte son soutien au gouvernement en place.
Et les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne qui sont réunis à Bruxelles ce jeudi.
Avec ces questions, Marion, quelle priorité pour le vieux continent pour les 5 ans à venir et surtout qui pour les mener à bien? Voilà les réponses à trouver pour les dirigeants des 27 de l'UE. Et cet enjeu, donc, la répartition des postes clés aux institutions, à savoir la Commission européenne ou encore le Conseil européen. Mais voilà, c'est très délicat puisque les dirigeants italiens et hongrois s'estiment lésés. Giorgia Meloni et Viktor Orban qui le font savoir, Julien Chavanne.
La photo des 27 dirigeants de l'UE autour de Volodymyr Zelensky, invité d'honneur de ce sommet, n'aura trompé personne. La famille européenne se déchire sur les top jobs. La Hongrie et l'Italie rejettent le casting élaboré par la coalition de partis qui domine le Parlement européen. Budapest et Rome n'ont pas du tout apprécié d'être mis de côté, alors que les nationalistes ont gagné du terrain aux européennes. Giorgia Meloni a tiré la première hier en dénonçant une oligarchie. Viktor Orban l'a suivi à son arrivée ici au Conseil européen. C'est un accord honteux. Les électeurs européens ont été trompés, attaque le Premier ministre hongrois. La coalition qui a décidé pour les autres est une coalition du mensonge et de la tromperie. Les numéros 1, italiens et hongrois, n'ont pas les moyens de bloquer les nominations aux postes clés. Mais en pleine formation de la future commission, les deux pays en profitent pour faire monter les enchères et tenter d'obtenir de meilleures places. Les discussions continuent, on n'exclut personne, répondent les autres dirigeants, sans être dupes. Julien Chavanne, Bruxelles, RFI.
Et pendant ce temps-là, en France, la campagne pour les élections législatives se poursuit.
Un premier tour qui est dans 3 jours. Les candidats ont donc jusqu'à demain soir, vendredi, pour faire campagne, tout comme les chefs de parti. Mais pour Raphaël Glucksmann, dirigeant du mouvement social-démocrate Place Publique, la campagne a été plus compliquée que pour d'autres. Aurélien Devernois l'a suivi dans les Yvelines, près de Paris. Reportage.
Ça va ? Des sourires et un accueil jovial dans une association d'aide alimentaire. De quoi remonter un peu le moral de Raphaël Glucksmann. Le patron de place publique a encore été vivement interpellée par une candidate macroniste quelques minutes plus tôt. Elle lui a reproché l'alliance nouée avec la France insoumise, une trahison de ses valeurs, selon elle. L'eurodéputée admet le paradoxe, mais se défend.
Moi, je ne dis pas qu'il s'agit d'un mariage d'amour. C'est une unité d'action électorale pour résister à l'extrême droite.
Une vision que lui ont parfois aussi reproché ses alliés du Nouveau Front Populaire, engendrant querelles et petites phrases pour le plus grand désarroi de certains.
Les bisbilles au sein de la gauche ne sont pas à la hauteur du moment.
Diène Abadiop, porte-parole du PS.
On doit être aussi dans le barrage à l'extrême droite.
Sur le terrain, les militants du NFP ont eux décidé d'enterrer les dissensions internes, comme Yasmina, sympathisante place publique.
J'ai mis de côté tous mes griefs personnels, j'ai privilégié l'intérêt de la nation.
Maintenir le regard sur la cible, c'est le mantra de Raphaël Glucksmann.
Jusqu'au 7 juillet, il n'y a pas d'après. Il y a le 7 juillet. C'est précisément ce que ne comprennent pas les macronistes. Si je vois une majorité Rassemblement National, eh bien la seule question que je me poserai, c'est est-ce que j'ai tout fait pour empêcher ça ?
Si l'objectif est atteint, Raphaël Glucksmann prendra sans doute ses distances avec le Nouveau Front Populaire, sans regret, mais avec le sentiment du devoir accompli.
Reportage d'Aurélien Devernois. Et c'est dans ce contexte que plusieurs associations alertent ce jeudi sur le retour d'un racisme décomplexé en France. Des journalistes ont reçu des courriers haineux et racistes chez eux directement. Sur les réseaux sociaux, les messages à caractère raciste se multiplient. Sur les réseaux où pullulent également de nombreuses fausses informations en marge de ce scrutin. Et une des dernières en date, c'est un faux site qui promet un versement de 100 € aux électeurs en cas de vote en faveur du parti présidentiel. Une manœuvre de déstabilisation décryptée par la cellule InfoVérif de RFI avec Olivier Four.
La fausse page web reprend en tout point la charte graphique du site internet d'ensemble. Même couleur, même mise en page, même typographie. Afin d'induire les utilisateurs en erreur, les auteurs ont pris soin d'utiliser un nom de domaine très proche de l'original, Ensemble 2024. Sous la bannière bleue de la coalition, on peut lire cette annonce trompeuse. Votez pour nos candidats et recevez la prime de Macron d'un montant de 100 €. Le site détaille la marche à suivre et appelle les internautes à laisser leur numéro de sécurité sociale afin d'être identifiés. Les liens fonctionnent et renvoient vers le site officiel, ce qui ajoute à la confusion. Concernant la diffusion de l'Infox, elle apparaît dès mercredi sur X et sur Telegram, puis est reprise par un site de désinformation français qui mêle le vrai et le faux, site affilié à un certain John McDougan, propagandiste nord-américain, pro-Kremlin, installé à Moscou. La fausse page est relayée par des comptes pro-russes qui cumulent parfois plus de 700 000 abonnés, certains allant même jusqu'à chiffrer le coût d'une manœuvre électorale qui n'a jamais existé.
Un décryptage signé Olivier Four pour RFI. La situation au Proche-Orient et la France qui se dit extrêmement préoccupée à la frontière entre le Liban et Israël où les violences s'intensifient sur le front sud de l'État hébreu dans la bande de Gaza. Au moins 5 personnes sont mortes ce lundi dans des bombardements de l'armée israélienne. Et c'est dans ce contexte que 21 malades atteints de cancer ont été évacués de l'enclave palestinienne vers l'Égypte.
On en vient à se faire rarissime. Ça se passe en Chine. Stéphane, Pékin a exclu aujourd'hui 2 anciens ministres de la Défense.
Une décision prise par le bureau politique du Parti communiste chinois qui doit d'ailleurs se réunir dans son intégralité le mois prochain, Stéphane Lagarde.
C'est la première fois dans l'histoire de l'armée populaire de libération que des enquêtes pour corruption concernant 2 ministres de la Défense sont annoncées publiquement dans une même journée. Leurs dossiers ont été transférés au parquet militaire dans le cadre de leur mise en examen. Un communiqué pour le prix de 2 avec des mots très durs, repris par l'agence Chine Nouvelle. Quelques mois après son limogeage brutal, Li Shangfu est en effet aujourd'hui accusé d'avoir causé un grand préjudice à la cause du parti, à la Défense nationale ainsi qu'à l'image des dirigeants. Son prédécesseur, Wei Fengro, ne vaut pas mieux, en croire la presse officielle, démissionnaire fin 2020. Ce dernier aurait aidé des tiers à obtenir des avantages indus en acceptant des cadeaux et de l'argent. Cible majeure de la campagne anticorruption du président Xi Jinping, l'armée a vu nombre de ses cadres dirigeants purgés ces dernières années et ces nouvelles exclusions interviennent alors que le pouvoir chinois se met en ordre de marche pour son 3e plénum, longtemps retardé et dont les dates du 15 au 18 juillet ont été annoncées ce jeudi, le grand ménage de printemps ayant duré jusqu'à l'été. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Et pour refermer ce journal focus sur une activité criminelle très juteuse, le trafic international de déchets.
Avec l'Afrique, l'Asie du Sud-Est est l'une des destinations de ces cargaisons clandestines de déchets, déchets notamment électroniques. Illustration en Malaisie, les autorités malaisiennes qui ont saisi une centaine de conteneurs ces 3 derniers mois et elles ont aussi démantelé un réseau d'importation illégale de ce type de déchets, Lucie Jambert.
Restes de machines à laver, vieux composants d'ordinateurs ou résidus de téléphones portables. En 2022, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites dans le monde, selon les Nations Unies, et moins d'un quart a été recyclé. Des déchets dangereux pour la santé et pour l'environnement, car ils peuvent contenir des métaux lourds et des produits chimiques. Ils viennent principalement des pays développés qui les envoient vers les pays pauvres pour les faire traiter à moindre coût. Devant l'afflux, de nombreux États comme la Malaisie ont interdit l'importation de ces déchets. Mais des réseaux criminels organisent toujours des expéditions illégales et en bout de chaîne, ces amas toxiques finissent dans l'océan ou brûlés à ciel ouvert. Nous sommes de plus en plus un dépotoir des pays riches, a dénoncé une ONG environnementale de Kuala Lumpur. Devant le conteneur rempli de vieux serveurs informatiques saisis au port de Kelang, le ministre malaisien de l'Environnement a lui annoncé une hausse des amendes, x20 pour la plus élevée. Mais les différences de législation, le manque de moyens de contrôle et la corruption affaiblissent la lutte des pays du Sud contre le trafic international de déchets.
Lucille Gimbert du service environnement climat de RFI, 19h15 ici à Paris, RFI Soir, c'est parti. Avec vous, Marion Cazanov.
Et merci Stéphane Genest, vous revenez pour le journal de 20h, temps universel. 19h15 à Paris, 17h15 en temps universel. Dans quelques minutes, la Une du Point qui fait un parallèle entre la crise grecque de 2010 et la France. Pourrait-elle voir, elle aussi, les institutions européennes se mêler de ses comptes en banque ? On reviendra aussi sur les législatives en France, vu d'Allemagne où la progression du Rassemblement national suscite une certaine inquiétude. Mais d'abord, on fait un tour de l'actu sportive. Avec vous, Eric Mamrud, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir tout le monde.
On commence par du basket. Victor Wembanyama a déjà un successeur, il s'appelle Zachary Risaché.
Oui, comme Wemby l'an passé, Zachary Risaché a été sélectionné en première position de la draft NBA la nuit dernière à New York. Un magnifique accomplissement pour cet ailier de 19 ans qui évoluait jusque-là à Bourg-en-Bresse. Il portera désormais le maillot des Hawks d'Atlanta. Zachary Risaché, fils de l'ancien international Stéphane Risaché, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de l'an 2000, qui a le bagage pour s'imposer dans le prestigieux championnat nord-américain. C'est l'avis en tout cas du spécialiste basket au journal L'Équipe, Samy Sadik.
Ce qui marque, c'est que c'est d'abord un ailier qui a le physique parfait pour être un ailier en NBA moderne. Il est grand, autour de 2m6, il est longiligne. On l'a vu cette année être appelé notamment en défense, à défendre sur plusieurs postes, à montrer une vraie polyvalence de ce côté-là. Et c'est quelque chose qui est très recherché en NBA. Et en attaque, en fait, il y a des fondamentaux offensifs qui sont très très intéressants chez lui, notamment au niveau de son tir. C'est peut-être l'un des meilleurs shooters de cette QV. Et enfin, il a une vraie expérience, un bagage en pro déjà, puisqu'il était sa première saison à Bourg, mais avant il jouait à l'ASVEL, où il côtoyait le groupe professionnel. Donc il vient avec un kilométrage entre guillemets professionnel qui est assez élevé par rapport à d'autres joueurs qui peuvent venir à son âge s'inscrire à la draft NBA.
Zachary Risaché, premier choix de la draft, juste devant un autre Français du même âge, Alexandre Sarr, sélectionné en numéro 2 par les Wizards de Washington. Une vraie nuit bleue pour le basket tricolore, puisque Tidjane Salin, 18 ans, a lui été choisi en 6e position par les Charlotte Hornets. Trois Français dans le top 6 de la draft NBA, c'est du jamais vu. De quoi enorgueillir Victor Wembanyama lui-même, il est toujours au micro de Victor Missistrano.
Beaucoup de fierté, mais ma première impression en voyant ça, c'est de me dire que c'est pas assez encore pour le basket français. Et que, voilà, si on l'a fait deux fois à l'affilée, on peut le faire une troisième fois, pourquoi pas une quatrième. Bien sûr, il y aura toujours des années meilleures que d'autres pour le basket français et le basket en général, mais je pense que ça témoigne du phénomène qu'on voit depuis quelques années, de plus en plus d'Européens qui entrent en NBA, qui dominent en NBA, et notamment de Français.
Victor Wembanyama actuellement en pleine préparation olympique avec l'équipe de France de basket.
Tennis, on est en pleine saison sur gazon. Gaël, mon fils, est en forme à quelques jours du tournoi de Wimbledon.
Le voilà en demi-finale du tournoi d'Isbourne après son succès sur l'Espagnol Roberto Bautista Agut en 3 manches. Gaël, mon fils, pour la première fois dans le dernier carré d'une épreuve sur gazon depuis 2018. 40e mondial, il affrontera demain le Chilien Alejandro Tabilo. Bonne nouvelle également pour Lucas Pouille, qui s'est extrait aujourd'hui des qualifications de Wimbledon. Le Nordiste de 30 ans a gagné ses 3 matchs pour s'offrir le droit de retrouver 3 ans après le Grand Chelem londonien. Après moult blessures et périodes de dépression, Lucas Pouille est aujourd'hui 213e au classement ATP. Se sont également qualifiés pour le grand tableau de Wimbledon. Le 3e grand chelem de l'année, Hugo Gaston, Quentin Lys et Maxime Janvier, pas Richard Gasquet qui a buté sur la 3e marche aujourd'hui, battu en 4 manches par le Tchèque Kopriva.
Et ce jeudi, c'est J-2 avant le grand départ du Tour de France cycliste.
Les coureurs sont arrivés à Florence, en Italie, où sera donné le coup d'envoi de cette 111e édition. Parmi eux, le principal favori, le Slovène Tadej Pogacar, qui ne l'est peut-être plus vraiment, puisque le double vainqueur en 2020 et 2021 a révélé aujourd'hui avoir eu le Covid il y a 10 jours, sans conséquence selon lui, puisqu'il s'est dit complètement rétabli. À vérifier sur les routes du Tour à partir de samedi prochain et jusqu'au 21 juillet, date de l'arrivée finale, une fois n'est pas coutume, à Nice, vous le savez, en raison des Jeux Olympiques de Paris.
Enfin, en football, Eric, le décès aujourd'hui d'un ancien international camerounais.
Landrine Guémo s'est tué dans un accident de la route entre Yaoundé et Bafoussam au Cameroun, âgé de 38 ans. Ce milieu de terrain avait fait l'essentiel de sa carrière en France, à Nancy, Bordeaux et Saint-Étienne, remportant une Coupe de France et une Coupe de la Ligue internationale à 42 reprises. Landrine Guémo a notamment participé à la finale de la CAN 2008 avec le Cameroun.
Le journal des sports signé Eric Mamrut. Comme tous les jeudis, on retrouve nos confrères du Point. Bonsoir Olivier Hubertalli.
Bonsoir.
À la une de l'hebdomadaire Les Législatives en France, avec notamment un article où vous tirez les leçons de la crise économique grecque à mettre en lien avec les programmes du RN et de la France Insoumise, programme économique. En couverture, cette question, la France, bientôt sous tutelle du FMI. D'abord, dans cet article, Olivier Hubertalli, vous racontez comment la Grèce a traversé cette crise et comment elle a pu se relever, avec d'abord, en 2010, l'arrivée d'une troïka pour contrôler les comptes du pays et qui a été vécue comme un traumatisme.
Oui, parce que la Grèce avait menti sur son déficit et elle s'est retrouvée exclue des marchés financiers internationaux. Et la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, sont alors intervenus avec l'aide du Fonds Monétaire International au sein de ce groupe qu'on appelle la Troïka. Et ils envoient alors, à l'époque, une équipe à Athènes, une sorte de force d'intervention qui est chargée de surveiller et la bonne gestion des finances par le gouvernement grec. Et ces technocrates de la Troïka, ils ressemblent un peu aux Men in Black, c'est dans leurs costumes sombres et leurs cravates noires. On les surnomme d'ailleurs les hommes en noir. Ben, ils s'installent au cœur d'Athènes, dans un hôtel 5 étoiles, le Hilton. Et c'est là qu'ils vont convoquer, depuis le Hilton, les ministres et les fonctionnaires grecs. Ils les obligent à coopérer. Et surtout, ils veillent à ce que les réformes promises par Athènes se concrétisent. Ils ont comme moyen de pression le fait qu'ils transmettent des rapports à la BCE, au FMI, qui vont influer sur le déblocage ou non d'argent frais pour la Grèce.
Et mais grâce à eux, la Grèce se tire d'affaire. Comment exactement ?
Ben, écoutez, la Grèce lance des réformes drastiques en échange de des plans d'aide de centaines de milliards d'euros qui sont mis en place par les Européens et le FMI. Et c'est des réformes, elles sont difficiles, elles sont dures pour la population, puisque les gouvernements coupent vraiment massivement dans les dépenses publiques. Parmi les réformes qu'ils lancent, il y a la réduction du quart des effectifs des fonctionnaires, la suppression de leur 13e, 14e mois, la réforme du marché du travail, la baisse de plus de 20% du salaire minimum et il y a le recul aussi de 5 ans à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Au final, vous le voyez, la Grèce se redresse, mais le fait au prix d'un terrible coût économique et social.
Alors, Olivier Hubertalli, vous décrivez la Grèce de 2024 plutôt comme un modèle économique ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, la croissance, elle est revenue. La Grèce est dopée au tourisme, notamment, qui pèse pour 25% de son PIB. Cette année, la Grèce attend une hausse du PIB de 2,2%. C'est près de 3 fois plus celle des autres pays de la zone euro, notamment si on prend la France attend 0,7%. Donc vous voyez 2,2 pour la Grèce. En 9 ans, on peut dire que celle qui était le cancre est devenue un peu le bon élève de l'Europe puisqu'elle a un déficit limité à 1% du PIB. Et puis aussi, elle a retrouvé à des taux de chômage très raisonnables puisqu'il y avait eu des pics de chômage à l'époque à plus de 20% et aujourd'hui le chômage est à 11%. Mais il y a encore des défis à relever pour la Grèce quand même puisque le système éducatif est peu performant là-bas et surtout cette crise qui a amputé d'un quart le PIB de la Grèce a laissé des cicatrices sociales et il a fait dégringoler le niveau de vie des Grecs.
Alors, dans les derniers paragraphes de votre article, vous émettez l'hypothèse d'une troïka à Paris qui irait remettre de l'ordre dans les comptes de la France.
Oui, d'ailleurs, dans un de ses livres, l'ancien ministre de gauche, Yanis Varoufakis, ex-ministre de l'économie en Grèce, issu de la gauche radicale, il raconte comment un jour, un des ministres des Finances d'Angela Merkel dit à un représentant français que la Troïka de la BCE et du FMI devrait aller en France après la Grèce. Alors, au-delà de cette boutade, on peut constater aujourd'hui un peu l'état inquiétant des finances de la France, puisque la France a un déficit faramineux à 5,5% du PIB, c'est 5 fois plus que la Grèce d'aujourd'hui. Elle a un endettement public à 110% du PIB aussi, et elle vient d'être placée d'ailleurs, la France, en procédure de déficit excessif par la Commission européenne. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous le savez, on a les élections législatives ce week-end, et on voit que le Rassemblement national, tant le Rassemblement national que le nouveau Front populaire promettent des milliards de dépenses. Et le risque, c'est qu'un jour, la note de la dette grecque soit dégradée, et tous les banquiers, les spécialistes en dette disent que si la France va encore bien, il y a un moment où si sa note de la dette est dégradée, eh bien ça va devenir très très compliqué pour boucler, on pourrait dire, les fins de mois. Donc en fait, ce qu'a montré l'exemple de la crise grecque, c'est que tôt ou tard, la France va devoir remettre de l'ordre dans ses finances et réduire sa dette.
Et cet article, on peut le lire dans la dernière édition du journal. Merci Olivier Hubertali pour la une du Point que l'on feuillette tous les jeudis sur RFI.
Bonne soirée.
Chez le voisin allemand, on regarde avec une certaine inquiétude ce qu'il se passe en France suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Lors des européennes, la coalition au pouvoir, elle aussi, en Allemagne, a obtenu de mauvais résultats. Elle est en perte de vitesse face à une extrême droite qui progresse. Les bouleversements politiques dans ces deux pays pourraient changer la relation franco-allemande et plus globalement la dynamique européenne. À Berlin, Delphine Narboli.
Difficile d'expliquer actuellement aux Allemands ce qui se passe en France. L'annonce de la dissolution a eu l'effet d'un choc outre-Rhin. La surprise a été d'autant plus forte qu'en Allemagne comme en France, les partis au pouvoir sont sortis très affaiblis des élections européennes. Mais de là à dissoudre le Bundestag, c'est une autre affaire. Cette pratique n'est pas dans les habitudes du système parlementaire allemand. Comme le rappelle Stéphane Cornelius, il est éditorialiste au quotidien Süddeutsche Zeitung. Nous le joignons par téléphone à Munich.
C'est fascinant de voir à quel point l'Allemagne et la France sont différentes. En Allemagne, notre système est conçu sur la peur de nous-mêmes, de sorte que nous ne prendrions jamais de tels risques. C'est pour cela que notre constitution exclut la possibilité d'élections anticipées ou de dissoudre le Parlement. C'est très clairement une conséquence de notre passé, de notre expérience. Et nous ne comprenons pas l'esprit des Français. Et par ailleurs, nous n'avons pas vraiment confiance dans la stabilité de la société française.
La crise politique en France fait réfléchir outre-Rhin, car en Allemagne aussi, l'extrême droite est en forte progression avec le parti AfD. On dit même que le pays se normalise en la matière, car l'extrême droite n'est revenue dans le paysage politique que depuis 10 ans. Elle reste toutefois encore au niveau national, bien en dessous des résultats du RN français. Deux partis bien différents selon Marc Ringel, il est directeur du centre franco-allemand de Ludwigsburg.
Le Rassemblement national a mené cette stratégie pendant des décennies en fait, de normalisation. Tandis que notre AfD, elle a pris la stratégie inverse, elle s'extrémise beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. On regarde près depuis des décennies maintenant, c'est d'abord le Front National, puis le Rassemblement National qui a mené cette stratégie d'en bas vers le haut. C'est-à-dire d'abord gagner des villes, des petits territoires et puis rassembler ça à un niveau national. C'est une stratégie qui pourrait être suivie aussi par des partis moins extrêmes, mais déjà extrême droite, extrême gauche en Allemagne.
Vu d'Allemagne, on ne s'inquiète pas vraiment du nouveau Front populaire à gauche. Le danger, vu d'ici, concerne le Rassemblement national.
La stratégie de RN serait de se retirer un peu de l'Europe, penser l'Europe autrement.
En cas d'arrivée au pouvoir du RN en France, l'Allemagne pourrait-elle se montrer plus active et prendre le leadership européen? Peu y croient ici, car à Berlin aussi, le gouvernement est fragilisé. Une situation de statu quo, voire de possible blocage, qui ne présage rien de bon pour la dynamique européenne. Delphine Arbolier, Berlin, RFI.
Un reportage à retrouver et à réécouter sur notre site rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio. C'est la fin de cette première partie d'RFI Soir. Dans 30 minutes, Le décryptage avec Anne Corpet, on parlera des enjeux de la présidentielle en Iran, c'est demain. Et dans quelques secondes à suivre le débat du jour, on parlera des législatives en France. Y a-t-il une trumpisation du débat politique? Il est bientôt 19h29 à Paris, 17h29 en temps universel.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, nous parlons des troubles et maladies de la thyroïde, hypo-hyperthyroïdie. Un endocrinologue à votre écoute.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème de demain.
Que vous soyez adolescent ou adulte, est-ce que vous tenez un journal intime? Que racontez-vous dans ce carnet top secret? En quoi le journal intime soulage vos peines ou vos colères?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.